Le bureau politique du FLNKS avait annoncé hier le viol présumé à Nouméa d'une jeune femme de 22 ans par les forces de l'ordre, mais le procureur de la République précise qu'à ce stade, rien ne permet d'insinuer que des membres des forces de l'ordre soient impliqués. Pas de navette maritime entre le Vallon d'Or et Nouméa jusqu'à ce soir en raison d'une forte houle. Même le Maridé et le Coral Palme ont été mis à l'arrêt. Le forum des soins palliatifs et des associations de santé se déroule jusqu'à ce soir à Nouville. L'événement est ouvert à tous les publics. Repenser l'entrepreneuriat en province des îles, c'est l'objectif du forum de la relance économique et de l'innovation des loyautés. Il s'achève ce soir après deux journées d'échanges. Obtenir gratuitement un certificat médical pour prendre ou renouveler sa licence sportive, c'est possible grâce à des permanences mises en place par le CTOS et le gouvernement. Et puis les Jeux paralympiques, dernière chance pour Pierre Ferbanque la nuit prochaine de décrocher sa 10e médaille olympique sur la finale du 800 mètres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. C'est le bureau politique du FLNKS qui l'a annoncé hier lors de sa conférence de presse. Une plainte pour viol a été déposée auprès de la gendarmerie. Le FLNKS parle du viol présumé à Nouméa d'une jeune femme de 22 ans par les forces de l'ordre. Le procureur de la République a publié un communiqué. Il souligne qu'à ce stade de l'enquête, les éléments de la procédure ne peuvent autoriser quiconque à insinuer, voire à affirmer que des agents appartenant aux forces de sécurité intérieure sont impliqués dans les faits supposés. Jean-François Baudin.
Les faits remontent au vendredi 30 août. Une jeune femme de 22 ans affirme avoir été agressée alors qu'elle se rendait à pied à son domicile. Très alcoolisée au moment des faits, elle déclare avoir été frappée et violée par 5 individus dont 4 portaient une cargoule noire et des gilets pare-balles, mais aucune inscription. Immédiatement, une enquête a été ouverte, tient à préciser le procureur de la République Yves Dupas.
Je confirme l'ouverture d'une enquête dès le 30 août, donc quelques heures après la révélation de ces faits, du chef de viol, avec la saisine de la section de recherche de la gendarmerie de Nouméa, pour mener à bien cette enquête avec toute la rigueur nécessaire. À ce stade de l'enquête, aucun auteur n'est identifié, aucune personne n'est interpellée. Et il est très clairement prématuré pour quiconque de mettre en cause des agents des forces de sécurité intérieure. Les investigations sont en cours avec toute une série d'expertises, d'exploitations techniques. D'abord pour établir la matérialité d'infraction et ensuite effectivement pour identifier le ou les auteurs.
Ce dépôt de plainte a été annoncé hier par le bureau politique du FLNKS qui a en outre publié un communiqué très outrancier dans lequel il dénonce un crime cautionné par l'État. Pour le procureur de la République, la récupération politique est très dangereuse alors que les investigations ne font que commencer et il adresse directement un message au FLNKS.
Pour ma part, je reste dubitatif par rapport à la démarche du FLNKS qui a dénoncé cette procédure. Bien sûr, par rapport à tout risque d'exploitation à des fins politiques de cette affaire, quand les sphères politiques s'intéressent et commentent certaines affaires judiciaires en cours, notamment avec des enquêtes en cours, bien évidemment, le risque d'exploitation politique est bien là. Maintenant, si le FLNKS veut apporter une contribution dans la lutte contre les violences faites aux femmes sur ce territoire, problématique majeure, sa contribution contre la banalisation des violences sexuelles dans certaines communautés, eh bien, je les invite à contacter des associations de victimes, la DAVI ou l'association SOS Violence, qui pourra aussi répondre à certaines demandes d'information de cette structure politique.
Le procureur de la République réaffirme que la justice travaille en toute impartialité. Il précise aussi que d'importants moyens ont été déployés pour faire toute la lumière sur cette affaire.
C'est nécessairement devenu une affaire sensible, une procédure particulière. Ceci étant, le parquet entend mener cette enquête de manière totalement impartiale, avec objectivité, avec rigueur. Et je peux d'ailleurs vous indiquer que nous avons engagé pour 2 millions de francs de frais de justice pour l'exploitation de traces biologiques, dans ce dossier. Donc ça veut dire que le parquet, effectivement, a pris, dès la révélation de ces faits, la décision de diligenter une enquête de manière à élucider cette affaire dans les meilleures conditions possibles et les meilleurs délais possibles.
L'enquête se poursuit donc et elle est confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Nouméa.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Les navettes maritimes reliant le Vallon d'Or et Nouméa à l'arrêt complet en cause les vents violents de ces derniers jours, entraînant une forte houle et une difficulté d'accostage au wharf du Vallon d'Or. Le Maridet et le Coral Palm ont été mis à l'arrêt dans la journée d'hier. Le problème, explique Olivier Berthelot, adjoint au maire du Mont d'Or, c'est que des centaines de Mondoriens se trouvant à Nouméa n'ont pas pu regagner le Vallon d'Or par navette publique.
Ça a créé une grande difficulté pour nos administrés du Sud qui étaient bloqués sur Nouméa. Et là, les transporteurs privés ont complètement joué le jeu. Par contre, à défaut de pouvoir accoster correctement sur le wharf, il y a eu de nombreux débarquements sur des plages, en fait. Donc, les gens ont dû sauter à l'eau et puis se rendre à pied à l'endroit pour pouvoir revenir sur la partie sud du Mont d'Or. Aujourd'hui, on est dans ce même scénario, là où il n'y a que des navettes privées qui fonctionnent, avec des conditions de vent élevées et de houle qui est peut-être un petit peu moins fort, mais qui reste quand même une houle importante. Donc on espère une accalmie, d'après les prévisions météo, dès demain.
Et pour connaître le planning des prochaines rotations des navettes maritimes, rendez-vous sur le site internet de la Province Sud ou sur la page Facebook de la collectivité.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, êtes-vous favorable à la création d'une commission d'enquête du Congrès pour faire la lumière sur les liens entre certains élus indépendantistes et l'Azerbaïdjan? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31 46. La réponse à notre question d'hier, 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent approuver la décision de la province sud de fermer les services provinciaux pendant 5 jours à l'île des Pins. Après l'agression dont ont été victimes samedi, deux élus, Virginie Rufnac et Laura Vendégout, ils ne sont que 3% à dire qu'ils n'approuvent pas cette décision. Et rappelons que c'est aujourd'hui que cette décision est entrée en vigueur et que les services provinciaux de l'île des Pins resteront fermés jusqu'à lundi prochain inclus. Parmi les textes que le gouvernement a examinés hier figure un projet de loi du pays et une délibération du Congrès relatif à la représentativité patronale. L'objectif est notamment de renforcer la légitimité des organisations syndicales d'employeurs. Il s'agit d'un dossier qui a mis plusieurs années à aboutir. Actuellement, les organisations syndicales d'employeurs, voulant se voir reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative, transmettent annuellement un dossier permettant d'apprécier le respect des différents critères et conditions exigés pour bénéficier de cette reconnaissance. Le projet de loi propose de mieux l'encadrer. Bertrand Courte est le président de la commission relations sociales au MEDEF-NC.
L'idée, c'est d'arrêter que les organisations patronales se chamaillent pour déterminer qui doit avoir le plus de sièges dans tel ou tel organisme en Nouvelle-Calédonie. Du coup, on a trouvé un terrain d'entente entre organisations patronales sur un ensemble de critères. Il y en a trois. Le nombre d'adhérents directs dans l'organisation, le nombre de salariés représentés par les adhérents directs et l'autonomie financière. Ça permet aux différentes organisations, un, de se positionner sur le paysage économique, deux, de se légitimer, trois, pour les nouvelles organisations, ça permet de fixer des critères également de représentativité pour les nouveaux entrants, et ça permet de donner une certaine capacité et une légitimité de négocier et à signer les accords.
Ces nouvelles dispositions devraient faire l'objet d'une phase expérimentale d'un an afin d'évaluer les éventuels impacts, notamment financiers, qu'elles pourraient générer. Les projections selon les nouveaux critères préfigurent une répartition patronale à 60% pour le MEDEF, 20% pour la CPME et 20% pour l'UDP. Mais la véritable audience patronale sera établie fin 2025 à l'issue de la pause expérimentale. Les émeutes lancées le 13 mai ont mis à mal le marché de l'immobilier, ce qui provoque des conséquences en cascade. Nous en avons parlé dans les Jeudis de l'économie à midi, Jean-François.
Les transactions immobilières sont au point mort ou presque. La situation actuelle n'incite évidemment pas les Calédoniens à investir dans l'achat d'une maison, malgré le nombre d'offres disponibles et des prix plutôt attractifs, surtout qu'ils sont souvent négociables. Tant que la situation sécuritaire n'est pas totalement rétablie et sans réelle visibilité sur l'avenir politique et économique, le marché atone va peser sur l'activité des agences, nous a dit Jean-Damien Ponroy, le président de la Fédération des agences immobilières.
Le travail n'est plus là. Ce qui est important de souligner, c'est que pour les agences immobilières qui font que de la transaction immobilière, c'est 8 à 10 mois à minima de chiffre d'affaires égal à zéro. À zéro, hein, pas 1, 2, 3, zéro, qui s'annonce et qui se concrétise pour nous. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Il y a eu des cas, malheureusement, de licenciement de personnel, je l'ai dit, d'agences qui ferment. Le chômage partiel, donc mis en place dans le cadre des exactions, a été souscrit par un certain nombre de ces agences. Mais jusqu'à quand ce chômage partiel va-t-il durer? Et à côté de ça, effectivement, on a des pertes de compétences qui sont susceptibles de se produire, puisque en l'absence de revenus à minima pour pouvoir vivre en Nouvelle-Calédonie, ce sont des gens qui vont devoir faire malheureusement, un moment ou un autre, le choix de peut-être quitter le territoire pour pouvoir subvenir à leurs besoins, sans même aucune considération de nature politique. C'est juste subvenir à ses besoins.
Et l'une des conséquences de ce marché de la transaction immobilière à Thônes, ce sont les difficultés rencontrées par les études notariales. Maître Elisa Mougel, la présidente de la Chambre territoriale des notaires en Nouvelle-Calédonie, a expliqué pourquoi.
L'immobilier, ça représente à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans nos missions, puisque en fait, le notaire a de vraies missions de service public, hein, il est là pour authentifier les actes, pour conseiller les clients, etc. Ces missions-là sont mises en danger, puisque en perdant 80% de notre chiffre d'affaires, on n'a pas pour autant perdu 80% de notre activité. Il faut avoir en tête que le notariat repose sur des dossiers qui sont assez rémunérateurs pour d'autres dossiers qui sont plus chronophages et moins rémunérateurs. Or, ces dossiers plus chronophages et moins rémunérateurs et qui sont au vrai service des gens, ils existent toujours. C'est ceux qui nous restent, mais pour autant, on n'a plus la rémunération qui nous permet d'assurer ces dossiers. Donc aujourd'hui, on est dans un vrai conflit en ayant moins de personnel à disposition et en pouvant moins rémunérer de personnel, alors qu'on a toujours quand même un travail à assumer et des missions de service public à assurer aussi. On est un peu inquiet sur le futur parce qu'on pourra tenir quelques mois, on pourra peut-être pas tenir plusieurs années si ça devait continuer.
Les notaires ont également recours au chômage partiel pour essayer de préserver leurs effectifs car les activités notariales en Calédonie nécessitent des compétences particulières.
Les gens qui sont formés sur le territoire, c'est des formations spécifiques. En plus, aujourd'hui, avec les écarts législatifs qui existent entre la métropole et ici, le notariat calédonien n'a plus rien à voir avec le notariat français.
Donc, il a besoin de formation locale.
Les gens qui arrivent de France ne sont pas tout de suite opérationnels. Donc, si on n'a plus nos compétences qu'on a formées pendant un certain nombre d'années, ça va être compliqué aussi pour le futur. Donc, ça, c'est une vraie question.
Le marché des transactions immobilières est donc à Thônes, malgré les baisses des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers. L'inquiétude des professionnels du secteur porte aussi sur les nouveaux programmes immobiliers qui sont à l'arrêt, sachant qu'il faut au minimum 1 ou 2 ans entre la validation d'un nouveau programme et sa réalisation.
Merci Jean-François. Et c'est Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie numérique, qui sera demain l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et plus globalement sur l'actualité calédonienne. Christopher Gigès, invité de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis le sommet du Forum des îles du Pacifique, réuni à la fin du mois d'août à Tonga, a acté l'envoi d'une mission d'information en Nouvelle-Calédonie. Le périmètre de cette mission a été validé lors du forum. Qui fera partie de cette mission? À quelle date est-elle programmée et quel sera son but? Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, sera notre invitée demain matin à 7h30. Il est 17h58. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On parlera d'abord du forum des soins palliatifs et des associations de santé qui s'est tenu aujourd'hui sur le site de la CH à Nouville. A tout de suite.
Psst, et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie?
Ça commence par... Après ça fait... Au site, ça fait... Et là,
Tu connais?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Info Soir, Isabelle Pelletier.
Un espace de discussion pour parler des soins palliatifs et de la mort de manière ouverte et sans tabou. C'était tout l'enjeu aujourd'hui du Forum des soins palliatifs et des associations de santé. Il se déroulait sur le site de la CH à Nouville, Charlotte Coulson.
Avec au programme cet après-midi des causeries autour des soins palliatifs ou de l'organisation des obsèques. L'occasion de répondre à des questions que tout le monde se pose sans oser en parler. Christelle Kern est infirmière coordinatrice du réseau de soins palliatifs et a animé un atelier à ce sujet cet après-midi.
Donc les cafés mortels, ils existent depuis 2004 déjà. En Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose d'assez nouveau. En fait, c'est tout simplement réunir des personnes autour d'un thé, d'un café, et de pouvoir discuter de façon tout à fait simple. En fait, un partage autour du deuil, de la mort, de la fin de vie. C'est un partage très léger autour d'un sujet un petit peu lourd parfois et tabou encore. De par les partages qu'on a eus après le café, les personnes sont venues à moi et m'ont dit qu'elles avaient beaucoup aimé, apprécié pouvoir discuter, échanger, et même certaines personnes trouver certaines solutions pour elles-mêmes ou leurs proches par rapport à la fin de vie ou l'accompagnement.
Et le forum continuait avec une causerie sur l'anticipation des obsèques lorsque la fin est déjà annoncée. En parallèle de ces ateliers, des cafés mortels permettaient à des personnes touchées de près ou de loin par la fin de vie d'échanger dans un espace bienveillant. Ils étaient chaperonnés par Géraldine, infirmière libérale et accompagnatrice de fin de vie.
La première causerie était en lien direct avec les soins palliatifs. On a expliqué au grand public ce qu'étaient les soins palliatifs et quelles étaient les missions du réseau. C'est des questions qu'on se pose tous un peu dans notre quotidien et auxquelles nous n'avions pas de réponse, en tout cas en tant que réseau de soins palliatifs. C'est vraiment un domaine qu'on méconnaît et voilà, sur lequel on avait envie de sensibiliser le grand public. Il y avait des personnes plutôt curieuses, justement, pas mal de familles en fait, qui soit avaient déjà vécu des situations similaires ou justement étaient confrontées là actuellement à des questionnements auxquels ils n'avaient pas de réponse. Visiblement, ils étaient plutôt contents des échanges et des discussions abordées.
L'objectif de cette journée, parler de sujets lourds avec légèreté. Des initiatives qui seront reconduites puisque les cafés mortels devraient être organisés prochainement au moins une fois par mois.
Le lauréat de première année de l'édition 2024 des doctoriales est Samson Jean-Marie, Sébastien Guillermin et Céphas Roma qui sont en deuxième année ont également été récompensés. Ces trois lauréats ont reçu un chèque de 300 000 francs qui les aideront dans leur recherche. La thèse de Samson Jean-Marie porte sur les enjeux, capacités et vulnérabilités pour faire face au changement climatique, l'apport des savoirs locaux et des échanges de savoir et de savoir-être auprès d'habitants de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu. On écoute la réaction de Samson Jean-Marie.
Je suis très content et très heureux aussi pour mes camarades. Donc ça fait plaisir à moi personnellement, à mes directeurs et directrices de thèse. Et aussi, je le dis, je suis très content étant que haïtien en Nouvelle-Calédonie d'avoir ce prix. Ma thèse vise à regarder, à décrire comment les agriculteurs ici en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu perçoivent tout ce qu'on appelle le changement climatique au-delà du discours scientifique et également comment ils développent un ensemble de stratégies pour faire face à ces changements. Et c'est d'essayer de comprendre ces stratégies afin qu'on puisse probablement les mobiliser dans le futur plan d'adaptation au changement climatique que la Calédonie est en train de travailler dessus, de rédiger.
Pour David Guyenne, président de la CCI, qui était membre du jury, ces sujets de thèse peuvent aussi servir à l'économie de la Calédonie.
C'était extrêmement enrichissant de voir des doctorants qui sont passionnés par leur sujet, qui ont une vraie rigueur intellectuelle, scientifique, et surtout sur des thématiques qui peuvent servir la Calédonie, à la fois l'économie de la Calédonie, mais aussi la société de la Calédonie, et de le faire dans l'auditorium de la CCI pour ouvrir la recherche au monde de l'entreprise notamment et à la société civile, j'ai trouvé que c'était une excellente initiative. J'ai été très touché par effectivement la pédagogie, de faire comprendre des sujets complexes, mais aussi d'essayer d'apporter une valorisation économique et une valorisation sociétale de leurs travaux. Parce que la recherche, et notamment la recherche doctorale, ce n'est pas qu'un exercice académique, c'est aussi pour le bien de la société et pour le bien de l'économie.
Jean-Marc Boyer, le directeur de l'école doctorale, estime que cette journée a été une réussite.
Une réussite. 10 candidats qui ont présenté donc leurs travaux de recherche. Les premières années ce matin, les deuxièmes années plus cet après-midi. Donc voilà, des sujets très variés du monde. Ce matin à l'université, l'amphi était bien rempli. Cet après-midi, on a été accueillis par le président de la CCI et également du monde pour assister à ces présentations. Donc le directeur de l'école doctorale est très heureux de cette journée qui a été bien organisé par le service. Donc voilà, on n'a plus qu'à se préparer pour l'année prochaine. On voit la maturation entre les premières années et puis ceux qui sont en deuxième année et plus. Ils sont beaucoup plus à l'aise, à l'oral, etc. Ça fait partie de la formation. Hein. Participer au doctorial, ça fait partie de la formation au sein de l'école doctorale. Comme MT180, etc. Ce sont des événements de l'école, mais ça compte dans la formation pour eux. Ils ont un certain nombre de points à acquérir. Eh bien, les doctoriales, c'est 10 points sur 60.
Des propos recueillis par Kélinda Boisco, Sébastien Guillermin participera en mai prochain au doctorial de l'Université de Polynésie française. Comment développer l'économie de la province des îles en période de crise? Le Forum de la relance économique et de l'innovation des îles Loyauté s'est achevé cet après-midi après deux jours de réflexion sur ce thème, Charlotte.
Des acteurs du monde économique réunis à l'IFU pour discuter hier et aujourd'hui de tourisme, d'autosuffisance alimentaire ou encore de foncier. L'objectif, entre autres, repenser l'entrepreneuriat en province des îles, comme l'explique Cédric Xeco, directeur de l'agence Îles Loyauté Explorer.
Depuis hier, on a eu des tables rondes. On a fait une première partie pour évoquer d'où l'on part sur les différents secteurs agriculture, pêche, tourisme, foncier et autres pour pouvoir réorganiser un peu le développement économique en province des îles Loyauté. Donc on pense à faire appel le plus au talent humain du vivier en province des îles, la création de fonds d'épargne pour être un peu plus autonome au travers des aides et sur de l'investissement sur de futurs entrepreneurs, retravailler sur la psychologie et la mentalité dans l'art et la manière d'entreprendre en province des îles, donner un accès aux formations dont la gestion doit être beaucoup plus explicite, de permettre à nos gens de s'épanouir dans l'entrepreneuriat. Donc pas mal de préconisations à ce sujet pour que la valeur humaine soit bien mise en avant.
Et parmi les secteurs faisant vivre les îles Loyauté, il y a évidemment le tourisme, durement mis à mal depuis le début des exactions. La province compte plus de 70 prestataires touristiques qui se sont tous effondrés après le 13 mai. Il est maintenant temps de mettre en place des actions de relance concrètes que détaille Cédric Xeco.
C'est un gros travail avec les chefs d'entreprise autour du tourisme pour les remobiliser, les accompagner dans leurs excursions, jouer sur un tourisme de proximité. Donc là, il va y avoir un gros travail qui va se faire au niveau des coutumiers, puisque certains ont commencé les travaux pour circuler dans les tribus, pour pouvoir informer les populations et pouvoir dire que le tourisme aux îles est ouvert aux visiteurs. Et que juste à côté de ça, partir sur la campagne notoriété, fait joli ton cœur, pour retrouver une image authentique des îles, et derrière tout ça, des campagnes commerciales qui vont voir des offres à prix cassé pour pouvoir redonner un peu du flux. On constate que la motivation, elle est vraiment là, et que les coutumiers ont déclenché le paramètre sécurité, ce qui est très important. Et c'est pour ça que le forum de relance économique reste vraiment le point de départ de tout ce qui va suivre concernant les différents secteurs.
Une relance du secteur touristique est donc essentielle, impossible sans la sécurisation des îles. La semaine dernière encore, la grande case du Wedge à l'IFU était incendiée. Cédric Xeco insiste, un communiqué officiel de la province des îles ou des aires coutumières est nécessaire pour redonner confiance aux touristes.
L'actualité dans la région, l'Australie qui poursuit sa lutte contre le trafic de drogue. Elle vient d'arrêter trois personnes impliquées dans deux affaires d'importation illégale. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Deux individus ont été arrêtés alors qu'ils transportaient 110 kilos de cocaïne qu'ils venaient de débarquer d'un petit bateau. L'interception des deux hommes, âgés tous deux de 39 ans, a eu lieu dans un village côtier de la péninsule du Cap York, à la pointe septentrionale du Queensland. La valeur à la revente de leur cargaison a été estimée à environ 3 milliards de nos francs. Les deux individus ont été inculpés pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la prison à perpétuité. Dans la seconde affaire, un habitant de Sydney, âgé de 28 ans, a été arrêté chez lui alors qu'il ouvrait des caisses censées contenir des équipements de fabrication et de réparation en provenance des USA, mais qui recelaient en fait 32 kilos de méthamphétamine d'une valeur estimée à 3 milliards de nos francs. Inculpé pour trafic de stupéfiants, il encourt lui aussi la prison à vie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h09, une seconde pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive avec le CTOS et le gouvernement qui met en place des permanences pour obtenir un certificat médical gratuit pour les licences sportives. Et puis bien sûr, nous ouvrirons nos pages Jeux paralympiques. On se retrouve après une page de pub.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Spécial info jeu SMS sur RRB. Le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie. Les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 000 000 de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Isabelle Pelletier.
Oui, avec les activités sportives en club qui reprennent petit à petit sur le territoire, il faut donc penser à prendre ou à renouveler sa licence. Et pour ça, le certificat médical est obligatoire, Léo Fichou.
Qui reste difficile financièrement dans cette période qui reste difficile pour de nombreux Calédoniens, le CTOS et le gouvernement mettent en place un dispositif gratuit, des permanences sans rendez-vous avec des médecins à Rivière-Salée, Boulary, au Vallon d'Or ou encore à Dumbéa. L'objectif est simple pour Nathalie Delanduy. Elle est chargée de mission au CTOS. Il faut permettre aux personnes d'obtenir gratuitement un certificat médical.
Un certificat est obligatoire pour une pratique sportive en club et ça peut être un frein financier. Et puis aussi, parfois, il n'y a pas de médecin dans le quartier, aux alentours, donc à disposition des personnes. Donc voilà, c'est leur permettre, et notamment aux jeunes, de reprendre l'activité sportive ou bien de renouveler leur licence. Il suffit de venir avec son carnet de santé et accompagner, si on est mineur, d'un des parents. C'est prioritairement réservé aux jeunes. On va dire jusqu'à 21 ans, mais pour la reprise, il n'y a pas de souci. Hier, on a eu aussi également des adultes, des jeunes adultes.
Hier, donc, après-midi à Magenta, par exemple, 24 personnes ont pu avoir gratuitement leur certificat médical pour reprendre une activité sportive en club. Les dates des prochaines permanences sont à retrouver dans la rubrique articles de notre site internet www.rrb.nc.
Une fin d'après-midi olympique à l'UNC avec la restitution du projet Excellence, un projet qui a envoyé 14 étudiants sportifs calédoniens aux Jeux de Paris 2024, Léo.
Pendant plus d'une semaine, les jeunes étudiants ont pu assister à des épreuves d'athlétisme, de football, de basket notamment, mais ils ont aussi pu rencontrer des athlètes français, dont les Calédoniens. Un projet mené par Éric Michalak, directeur du service des sports de l'UNC, visant à inspirer la jeune génération autour de deux axes, l'excellence sportive et académique d'un côté et l'engagement étudiant de l'autre.
Bien sûr, ces étudiants représentent à mon sens donc des figures inspirantes pour la jeunesse calédonienne et pour la jeunesse étudiante, plus généralement sportive. Au niveau sportif, ils ont vu ce que c'était que vraiment le très haut niveau, donc ils sont inspirés aussi. On a eu l'occasion au Club France à Paris de mettre à l'honneur nos sportifs qui ont fait les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc on était avec Pierre Ferbanque. Il y a des réflexions qui sont assez symboliques de leur enthousiasme, des grands yeux quand ils se sont retrouvés face à la Tour Eiffel, à la flamme olympique qui monte, etc. Et puis voilà, que nos jeunes ici en Calédonie soient motivés pour intégrer l'université et puis un sport de prédilection où ils vont exceller.
Et parmi les jeunes étudiants athlètes qui étaient à Paris aux Jeux Olympiques, il y avait notamment Loane Ville, la championne de France du 400 mètres et en a pris plein les yeux.
J'ai eu les larmes aux yeux même parce que j'ai vu le record du monde dans ma discipline, j'ai vu tous les athlètes que j'admire beaucoup. Donc oui, j'étais une petite fille dans le stade et j'espère que dans 4 ans, je ferai partie des athlètes sur la piste. Ça s'est super bien passé, c'était Paris en vacances, donc c'est différent de Paris pendant les compétitions. Ça a été une expérience inoubliable avec une super équipe qu'Eric a fondée. Et franchement, je suis super contente d'avoir pu participer à ce projet, c'était juste merveilleux.
La restitution du projet Excellence à l'UNC a été suivie de la diffusion du documentaire Les Incorrects, un film qui retrace l'épopée des femmes dans l'olympisme.
Et nous ouvrons maintenant nos pages consacrées aux Jeux paralympiques.
Les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et nous ouvrons cette page consacrée aux Jeux paralympiques avec Pierre Ferbanque. Le Calédonien aura une dernière chance cette nuit de repartir de Paris avec une médaille olympique, Léo.
Il a terminé 6e, on le rappelle, du 400 mètres et 5e du 100 mètres la nuit dernière. Mais Pierre Ferbanque n'abdique pas et sera aligné la nuit prochaine en finale du 800 mètres. Sans doute la course où il est le plus performant. Il donnera tout, en tout cas, pour décrocher la 10e médaille paralympique de sa carrière. On écoute Pierre Ferbanque.
Bon, j'aurais préféré être sur le podium, mais bon, j'ai l'impression d'être dans l'emballage final et on me reprend tout doucement un petit peu à la fin les autres concurrents, mais voilà, content de l'ambiance et inoubliable. Et puis il me reste le 800 mètres. En général, on est un peu plus tacticien quand on est mature et du coup, voilà, si tactiquement les deux costauds ils commencent à se regarder, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire et voilà.
C'était Pierre Ferbanque après sa finale sur le 100 mètres. Et on le rappelle, il sera en finale du 800 mètres fauteuil cette nuit à 4h58, heure de Nouméa.
Et des chances de médailles, il y en a encore pas mal ce soir en paracyclisme notamment.
Et oui, après la razzia de médailles hier sur les différents contre-la-montre, on retrouvera ce soir 6 Français sur les courses en ligne. Et donc autant de chances de médailles. Ce soir également le début du judo avec notamment la quadruple médaillée paralympique Sandrine Martinet. On suivra aussi la demi-finale des garçons en Cécile. Foot, ils affrontent à 2h30 heure de Nouméa la Colombie pour tenter de décrocher une place en finale. Il y aura encore et toujours de la natation avec Hugo Didier et Laurent Chardard, de l'escrime avec l'équipe de France de fleuret femmes en 8e de finale et les hommes en quart. Et puis du coup, parlons du classement des médailles. La France reste 5e avec pas moins de 50 podiums, 15 médailles d'or, 17 en argent et 18 en bronze. En tête du classement, toujours la Chine loin devant la Grande-Bretagne. Les États-Unis complètent le podium.
Merci Léo Fichou.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et il est 18h16, c'est presque la fin de ce journal. On va maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Allez, la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, ce sera une belle nuit étoilée sur le nord-ouest. Ailleurs, les plaques de nuages bas sans conséquence se reformeront. L'alizé de sud-est restera soutenu. Il se maintiendra entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 35 à 40 nœuds. Les températures minimales seront très fraîches et bien inférieures aux valeurs de saison. Elles s'échelonneront de 9 à 15 degrés dans l'intérieur et aux îles et de 16 à 20 degrés près des côtes. Demain matin, le nord et l'ouest auront droit à de larges éclaircies. Ailleurs, les plaques de nuages bas tarderont à se dissiper. L'alizé de sud-est s'établira rapidement entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds, Isabelle.